Écho d'économie.
Au sommaire, une nouvelle taxe sur l'abattage de bêtes à l'origine de la grève des bouchers à Ouattara-Nossom en province orientale. Cette situation a occasionné la rareté des viandes de chèvres, porcs et moutons sur le marché. Une entreprise qui se veut prospère doit prendre soin de son mulier. Déclaration de Olivier Dubigeon, patron de Substanway, une organisation française, au cours du forum sur les responsabilités sociétales des entreprises ce jeudi à Kinshasa. Dans ce magazine économique, nous parlerons aussi des transactions commerciales entre l'Angola et la RDC affectées après que le pont Lufu se soit coupé. Bonsoir. Commençons par la province orientale où les viandes des petits bétails, notamment des chèvres, moutons et porcs, se font rares dans la cité de Ouattara, territoire à plus de 700 km au nord-est de Kisangani. À l'origine, la grève des bouchers de cette catégorie de bêtes depuis 10 jours suite à l'institution d'une nouvelle taxe sur l'abattage de bêtes. L'administrateur du territoire de Ouattara déclare que les pourparlers sont déclenchés pour amener ces bouchers à répandre le travail. Explication à Selma Soa.
Ces bouchers, déclare la société civile locale, s'insurgent contre une nouvelle disposition de l'État les obligeant à payer 5 dollars américains lors de l'abattage d'une bête pour les comptes de la Direction générale des recettes de la province orientale DGRPO. Outre ceci, poursuit la même source, ces bouchers doivent donner 2 kilos de viande au service vétérinaire, et cela à chaque abattage pour les comptes des autorités territoriales. Pour les bouchers, affirme la société civile, cette nouvelle disposition constitue une double taxation car à chaque abattage, ils payent 5 dollars au service vétérinaire du territoire. Réagissant, l'administrateur du territoire déclare que les bouchers ont promis hier mercredi de reprendre le marché dans quelques jours. Et ce, dit-il, après avoir été ramené à la raison sur cette nouvelle disposition étatique. Et justifiant cette dernière, Christophe Ikando souligne que ces 5 dollars, dont 3 pour l'abattage et 2 dollars pour les frais techniques et administratifs, sont perçus par le ministère provincial des Finances pour les comptes du gouvernement provincial. Quant au prélèvement de 2 kilos de viande, l'autorité affirme que ceci fait partie d'un système de contrôle interne pour s'assurer que la viande est propre à la consommation. Kisangani, Anselme Massoua, Écho d'économie.
Parce que nous parlons de la taxe, retrouvons Paul Matendo qui nous en dit plus dans le zoom économique de ce soir.
Une taxe, c'est la valeur monétaire d'un service rendu par une personne publique. Ou encore, c'est un prélèvement obligatoire perçu d'autorité à l'occasion d'un service rendu. Le terme taxe est aussi utilisé par les milieux financiers pour désigner l'ensemble des prélèvements obligatoires. En réalité, il s'agit d'un anglicisme, le mot anglais taxe signifiant en français impôt. La taxe est un prélèvement obligatoire perçu d'autorité à l'occasion d'une opération, mais qui ne constitue pas la contrepartie monétaire de ces services. Il diffère de l'impôt par son assiette. Il est payé à l'occasion d'une opération et par son redevable, l'usager. Il diffère de la redevance, celle-ci étant la contrepartie monétaire d'un service rendu. Dès lors que le prélèvement est inférieur à la moitié du coût du service, il s'agit d'une taxe et s'il est supérieur, il s'agit d'une redevance. Par contre, l'impôt constitue un prélèvement obligatoire effectif par voie d'autorité par une administration. L'impôt constitue généralement une part importante des recettes publiques avec les cotisations sociales. Notons que les impôts alimentent les budgets de l'État ou d'une subdivision nationale ou fédérale, notamment une province, une région, un territoire, un département, un district, etc. et dans une moindre mesure des organisations à compétences spécialisées.
Je le disais également au sommaire, les entreprises et les autres organisations devront tenir compte de leur impact tant sur le plan social, environnemental qu'économique. C'est ce qui ressort du forum qui se tient depuis ce jeudi ici à Kinshasa. Ces travaux de 2 jours sont organisés par la Chambre de commerce, de l'industrie et des métiers de la RDC. Ils portent sur la responsabilité sociétale des entreprises. Olivier Dubigeon, l'un des orateurs et patron de Substanway, une organisation française, estime qu'une entreprise qui tient à prospérer doit tenir compte de son milieu. Olivier Dubigeon est au micro de Paul Matino.
Si l'entreprise prend soin de la prospérité de son territoire, l'entreprise va être prospère. Si elle n'en prend pas soin, le territoire peut se déliter et à ce moment-là, l'entreprise va se déliter elle-même. Alors concrètement, ça nécessite déjà premièrement de connaître les impacts de l'organisation. Vous avez une organisation qui à son activité. Donc c'est où est-ce que j'impacte positivement et où est-ce que j'impacte négativement la société. Deuxième étape, c'est je vais dessiner ce que j'appelle un contrat de méthode, c'est-à-dire comment je m'engage à corriger les impacts négatifs, améliorer mes impacts positifs, et comment je vais professionnaliser mes équipes pour que ça puisse se faire dans la vie de tous les jours. Troisième étape, c'est que je vais intégrer dans l'ensemble du fonctionnement de mon organisation, dans les circuits de formation, dans les pratiques professionnelles, dans les services, dans les services support, jusqu'à la raison d'être, je vais intégrer ce contrat de méthode. Désormais, mon entreprise sera une entreprise qui va développer évidemment la dimension économique et la dimension sociétale.
Et puis les principes volontaires sur la sécurité et les droits de l'homme constituent, entre autres, un mécanisme efficace de prévention et des résolutions des conflits liés au développement des secteurs miniers et pétroliers. Ceci ressort d'un atelier d'information et d'échange qui s'est tenu mercredi à Kisangani en province orientale. Une rencontre organisée par l'ambassade de Suisse en RDC en tant qu'État membre de principes volontaires. À l'issue de ces assises, un comité de suivi a été mis en place pour vulgariser les principes volontaires auprès des entreprises du secteur minier avant la constitution d'un groupe d'acteurs de la société civile, de l'autorité provinciale et du secteur privé entendant mines et sécurité. Objectif, discuter sur les défis liés à la sécurité et les droits de l'homme auxquels ils sont confrontés quotidiennement. Katharina Gogeli, conseillère en sécurité à l'ambassade des Suisses en RDC, explique le bien fondé de principes volontaires. Elle est au micro d'André Kitenge.
Il y a des ONG internationales qui sont membres des principes volontaires. Il y a des entreprises minières. Nous nous sommes dit que ça ne suffit pas, que nous en parlons à Kinshasa, parmi nous, qu'il y a aussi des activités au Katanga, où il y a des groupes, des entreprises minières, il y a des entreprises de sécurité privée, il y a les représentants de la sécurité publique qui se joignent tous les mois pour discuter des questions liées à la sécurité et les droits de l'homme dans le secteur extractif. Ce que nous voulons faire ensemble, avec mes collègues du secteur privé et de la société civile, c'est de rendre consciente la communauté ici à Kisangani de ces principes volontaires et essayer de les encourager aussi de s'impliquer comme il y a un groupe qui le fait au Katanga pour veiller, pour collaborer, pour former à ce que les droits de l'homme soient respectés dans la provision de sécurité dont ont besoin les entreprises multinationales et les entreprises minières.
Quelques nouvelles en bref. Une délégation des investisseurs belges a séjourné pendant 4 jours au Kassaï oriental, conduite par Jérôme Rox, attaché économique à l'ambassade de Belgique. Cette délégation est venue manifester les soucis de la Belgique d'accompagner le Kassaï oriental dans le secteur minier et celui de l'énergie renouvelable. La délégation a visité le polygone de la minière des Bakanga, Miba, les installations de la société Sassim, exploitant le diamant à Chibwe dans le territoire de Miabi. Sur place, la délégation s'est rendue compte de l'évolution des travaux de construction du barrage de Movo-Katia. Avant de retourner à Kinshasa, le chef de mission a promis de revenir à Mbujimayi au mois d'octobre prochain pour récolter certains projets de secteurs ciblés. Parlons de la hausse du prix du riz blanc. Depuis hier à Bumba, nous sommes dans l'Équateur, la cité située à environ 900 km à l'est de Mbandaka. Selon les revendeurs du riz au marché de la cité, le prix d'un sac de 80 kg est passé de 4 500 francs congolais à 4 900 francs congolais à ce jour. Selon cette source, l'offre du riz blanc a diminué sur le marché. La période de semis est à la base de cette situation, explique les vendeurs et vendeuses du marché.
Écho d'économie.
Pour terminer, parlons du pont Lufu qui relie le marché frontalier de l'Angola et de la RDC par le territoire de Songololo qui s'est coupé en deux et c'est depuis lundi dernier. Conséquence, les transactions entre l'Angola et la RDC sont fortement affectées. Du coup, les opérateurs économiques crient au secours. Guy Roger Nyampala, l'un de nos correspondants au Bas-Congo, nous en parle.
Ce grand marché reçoit au moins 200 véhicules et 20 000 personnes selon des sources locales. Il est l'un des plus importants centres des négoces du pays qui attire un monde fou des commerçants du Bas-Congo, du Kinshasa, de Bandundu, voire même des deux Kassai. L'arrêt du trafic sur cet axe routier est un manque à gagner, non seulement pour la province du Bas-Congo, mais également pour le pays tout entier. La DGDA, l'OCC et la DGRAD ne perçoivent plus des taxes et frais de douane comme auparavant. Les transactions angolaises ne sont pas également épargnées à travers leurs camions poids lourds qui font le trafic entre Luanda et l'enclave de Cabinda via Lufu. Ces véhicules poids lourds sont aujourd'hui immobilisé de part et d'autre de la frontière. Le croulement de ce pont est intervenu le lundi dernier lors du passage d'un camion poids lourd qui transportait 1200 sacs de ciment estimés à 80 tonnes alors que la capacité du pont est de 30 tonnes. Ce pont, long de 30 mètres, a été construit en 1975. Depuis, il n'a jamais été réhabilité. Les opérateurs économiques exigent sa réhabilitation immédiate pour leurs affaires. Le ministre provincial en charge de transport et voies de communication du parc Congo a effectué le mardi dernier une descente d'inspection sur place. Matadi, Guiroje Nyampala, Écho d'économie.
Écho d'économie, c'est fini pour ce soir. Merci de nous avoir suivis.